shampoo dans la tête.
Groovy.
Bonjour et bienvenue dans le manège des papous. Pour les attractions, inutile de faire la queue avec Gérard Mordillat. Sauter dans l'inventaire de vos traumatismes enfantins, c'est la deuxième partie, avec Jean-Bernard Pruy.
Eh bien, c'était à Londres, il y a longtemps, un jour de l'an. Pas de sous, une chambre d'hôtel pourrie avec un carreau cassé, et un tube de mayonnaise et 5 biscottes. Et c'est tout. À la radio passait en boucle Michel des Beatles. C'est pourquoi depuis je déteste les Beatles.
Tournée autour du commissariat central pour une expérience de tourisme minimal, montée sur les petits chevaux pour un tour de haïku et une envolée à bord de l'impressif japonais Polo Polo, version montagne selon Lucas Fournier.
Je sentouis quelques puissanteurs de reins que je craignouis, que les eaux mêmes me causassent et qu'elles y croupissent. Je pissouais dans le Polo Polo pour les chauffer.
Et nous nous quitterons sur un échange entre Monet et son jardinier, toujours aux couleurs du Japon. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h58. Un numéro des Papous à podcaster sur franceculture.fr. Et puis rejoignez notre page Facebook pour tout savoir, ou presque, de la vie des membres de la bande des Papous. Merci de votre fidélité et un grand salut à ceux qui nous rejoignent. Françoise Trossard et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou. Un joli dimanche papou qui s'ouvre sur Gérard Mordillat, ma foi de fort méchante humeur, à propos d'une chose qu'il n'aime pas faire. Alors il a écrit un texte vigoureux contre cette chose. Quand il n'aime pas, il peut avoir la dent dure, Gérard Mordillat. Ce texte est donc un pamphlet.
Oui, c'est un pamphlet. C'est un pamphlet qui risque de choquer certains, mais auquel je tenais beaucoup.
Ouais.
Parce que je suis contre la queue. Je n'aime pas la queue.
L'affaire, vous voulez dire ?
Ce n'est pas une question de taille, parce que ce soit une grande queue ou une petite queue, la queue me déprime, me décourage et parfois même m'exaspère. Pas question pour moi de me mettre à la queue comme tout le monde. D'abord parce que je ne suis pas comme tout le monde, ensuite parce que je n'ai pas la tête de l'emploi, faire la queue, non merci. Je ne veux pas poireauter devant un cinéma, ni au restaurant, ni devant n'importe quel commerce, aussi réputé soit-il. La queue me donne envie de fuir, là-bas fuir, d'être parmi l'écume et les cieux, mais sûrement pas à la queue leuleux, derrière une théorie de mes semblables, enquestée pour un divertissement ou un repas. La queue, voilà mon ennemi. Non, non, Françoise, ne protestez pas, je tiens à la queue. Vous me suggérez de parler de file d'attente. Mais qu'est-ce qu'une file d'attente, sinon une queue honteuse ? Une personne de petite taille qui n'assume pas d'être naine, un aveugle leurré par un non-voyant dans un tunnel, un malentendant si sourd qu'il ne peut même plus entendre qu'il est sourd. Alors, la queue est la queue et sera toujours la queue. Tu sais, je la défendre alors que je l'aborde. Car c'est vrai, je la déteste, je la hais. Dans En attendant Godot, il y a cet échange terrible. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend. Ils sont deux. Et ils font déjà la queue. Quelle pitié ! Attendre, toujours attendre, mais attendre quoi ? Pourquoi ces queues interminables devant la dernière expo de peinture d'un peintre mort il y a un siècle ? Pourquoi cette énorme queue devant le cinéma projetant la comédie du moment que personne n'aime mais que tout le monde veut voir ? Pourquoi s'aligner en rang en attendant d'entrer sur le stade pour assister à un match de n'importe quoi ? Pourquoi la queue ? Pourquoi accepter la queue ?
Oui.
Eh bien, parce que ceux qui s'y résignent ont peur. Parce qu'ignorant les beautés de la solitude créatrice, de la curiosité vivifiante, de la nage en eau libre, ils craignent de ne pas en être, d'être exclus à la marge, renvoyés dans les limbes de la précarité définitive. Mais moi, c'est la queue qui me fait peur. L'idée d'être le suivi et le suivant, comme dans une chanson de Brel, je ne veux suivre personne ni marcher sur la tête d'aucun. Je ne suis ni pour la resquille ni pour le passe-droit, mais je suis contre l'alignement queue-tu-coïde des citoyens semblables aux cyprès que l'on plante dans les cimetières. La queue, c'est la mort. Alors, laissons les gondoles à Venise et la queue aux Anglais.
Voilà.
Oui. Les rosbifs qui aiment tant nous recycler leurs vieux mots nous ont pris celui-là. « To queue ». Waiting to move, attendre, ne pas bouger, être un transi, un gisant, une viande froide de son vivant. L'horreur absolue. Vous serez d'accord avec moi, la vie est trop courte pour apprendre l'allemand. Elle est encore plus courte lorsqu'on attend, lorsqu'on fait la queue. Et moi, faire la queue, ça me donne les boules.
Bon, bon, il a tout dit ou presque. Moi, je trouve que les Anglais font très bien la queue. Alors, hein, parce qu'ils ne risquent pas, les Anglais.
Je déteste la queue aussi, mais il faut dire que c'est plus agréable de la faire en Angleterre, parce qu'au moins, il n'y a personne qui essaye de se faufiler devant vous.
Voilà.
C'est plus correct.
Oui, mais tu parles du point de vue de celui qui fait la queue. Celui qui resquille, il préfère resquiller que faire la queue.
Mais ça, c'est très, très incorrect.
Le monde se divise en deux, Patrice Minet. Eva Almassi, vous avez une opinion ?
Pour une fois, c'est une réponse assez personnelle.
Ah oui ?
Absolument.
Ah bon ? Mais par rapport à la queue, toujours ?
Non, par rapport à Gérard.
Ah bon, d'accord.
Enfin, les deux, j'essaie de concilier les deux. Oui. Qu'il me soit permis d'exprimer mon étonnement devant cette haine de la queue, de la trempe d'un homme comme Gérard Mordillat. N'a-t-il pas... humain, trop humain, un singe, tout comme vous et moi, ayant perdu son appendice caudal et descendant de l'arbre. Tout désormais, pour nous autres, bipèdes sans plumes, excepté les écrivains et sans queue, enfin, la queue dont il est question ici, c'est une question d'horizontale et de verticale. La file d'attente, c'est l'arbre du singe étalé au sol. Un fruit de l'évolution. Et on l'a fait debout.
Oui.
Or, quel meilleur cruciverbiste, hormis Odile Conseil et ma modeste personne, que Gérard Mordillat parmi les papous. Horizontal, vertical, rappelez-vous. En 7 lettres, contenu de la boîte de Pandore. Non, pas espoir, comme on le croit, qui ne fait que 6 lettres. J'ai bien nommé « attente ». De là à attendre devant une boîte de nuit, il n'aime pas et c'est son droit, ni devant un cinéma, lui le cinéaste. Or là, justement, attente et espoir sont encore synonymes. On croit que le film sera bon. Et qu'est-ce qu'un film, un long métrage, sinon une longue queue ? Les images qui se suivent, et sauf dans les films de Yoko Ono sur le sourire de John Lennon, ne se ressemblent pas. C'est parce que vous n'aimez pas les voir de dos, ou tourner le dos vous-même à vos semblables, avouez-le, que vous détestez ça. Quand on vend les tickets, ou que l'on est ouvreuse de cinéma, on voit les visages défiler, et ça change tout, parce qu'alors c'est des individus. Oh, vous êtes philanthrope, enfin, je suppose. Sinon, soyez ministre ou devenez président ou journaliste ou encore achetez une carte coupe-fil au musée. Et je vous recommande le Muséum. Longtemps l'homme a fait la queue dans la phylogénèse pour apparaître enfin sur Terre.
Vous savez quoi, elle vous évite au moins une bonne dizaine d'années de psychanalyse, Eva Almassi.
Je crois, je suis consciente.
Elle a touché un point un peu sensible chez vous.
Il veut devenir président, c'est ça ?
Oui.
Non, moi, ma véritable ambition, c'est d'être empereur romain.
Ah !
Voilà, je trouve que au moins ça vaut le coup d'être Tibère, Néron, Caligula. Oui, ça, c'est une vie. Être président, c'est lamentable. C'est l'apothéose du petit chose, ce n'est pas autre chose.
Et c'est vrai que maintenant que vous le dites, vous avez une tête d'empereur romain.
L'avantage pour les élections, c'est qu'on ne fait plus la queue. Hein.
Ah
il
non,
y a peu
ça,
de gens
plus...
qui votent.
And who's next? And who's next? He was still just a child when he had his first fuck in a mobile army brothel, gift to the army free of charge. And who's next, please? He really would have liked some understanding, maybe a word or a smile, but she was not to blame. And who's next? And who's next? It wasn't all that tragic. Truck, the flying flag, the officers who mock them and tell them what to do. And who's next, please? Who's next? And now
the wet head of his cock. A dose of gonorrhea, and still he hears that ugly voice.
And who's next?
And who's next? The voice that stinks of cognac and of corpses and of mud. It is the voice of nations, the thick voice of blood.
And who's next? And who's next? And since then, with every new romance, he imagines lovers whisper in his ear. And who's next? And who's next? All the naked and the dead should hold each other's hands as they watch him scream at night in a dream no one understands. And who's next? Next, and when he isn't screaming in a voice grown dry and hollow, he stands at endless naked lines of the following and the following. And he's next, and he's next. One day he'll cut his balls off or burn himself alive. He'll do anything to get out of the line. Never to be next, never to be next.
Phil Minton, au suivant de Brel. Alors voilà, dimanche dernier, nous avons démarré un inventaire collectif des blocages répulsifs devant certains aliments, certaines boissons, vêtements, lectures, films, comédiens, chanteurs, dus à un traumatisme émotionnel subi dans l'enfance. C'est un peu comme si les papous étaient sur le divan d'un psy pendant quelques minutes. On a rejoint Gérard Mordillat. Un sujet proposé par Patrice Delbourg, avec Sophie Divry, Jean-Bernard Pouillet, Val Massy, Jacques Vallée et Jacques Jouet, et à vous qui nous écoutez d'apporter votre pierre à l'inventaire à la page des Papous sur Facebook. On reprend donc aujourd'hui le fil des traumas. Eh bien, quand il s'agit de l'enfance, se profile souvent le spectre du souvenir de classe, Patrice Delbourg.
Delbourg, la mathématique, c'est pas de la merdouille. Massenet, Monsieur Sidon. Professeur de mathématiques au lycée Charlemagne. Il lisait régulièrement ma copie nullissime à haute voix devant la classe. Il m'humiliait avec une équation à une inconnue. Longtemps, je suis resté sans pouvoir faire une addition. Et aujourd'hui encore, je peine à faire la somme de mes soucis.
Jacques Vallée.
Dans les écoles, il y a toujours des faillots. Ouais. Les parents du chouchou de l'époque l'habillaient d'un petit costume avec une petite cravate élastique. Depuis, je me suis détourné et des costumes et des cravates.
Je ne vous ai jamais vu avec une cravate, en tout cas. Sophie Divry.
Comme beaucoup de Français, je ne supporte pas Fabrice Luchini.
Ah, moi, je l'adore.
Moi, je suis d'accord avec.
Non pas pour les raisons outrancières de jeu d'acteur auxquelles vous pensez naturellement,
non.
Mais parce que mon petit ami, de quand j'avais 15 ans, et qui lui ressemblait vaguement, m'a largué juste avant la séance du film où nous sommes allés et où il jouait dedans. Et donc, j'ai fait un transfert contre Fabrice Luchini, toujours d'actualité. Salut Luchini.
Le pauvre Jacques Jouet.
Eh bien, je suis au collège, je dois apprendre le monologue d'Esther. « Oh, mon souverain roi, me voici donc tremblante et seule devant toi. » Je dois réciter ça à mon père en lui prouvant que je sais le texte. Esther, normalement, s'adresse à Assuérus. Moi, je sue comme un russe. Je n'ai jamais pu relire Esther.
Eva. Mais moi, le livre que je ne peux pas relire, c'est « L'homme qui rit » de Victor Hugo. Et là, le traumatisme me vient quand j'ai appris le français. Parce qu'en hongrois, j'adorais, j'ai lu je ne sais combien de fois, je m'identifiais à tous les personnages. Et puis quand j'ai relu en VF original, oui. Je trouve que le style est horrible, que c'est un livre mal écrit, mal pensé, voilà.
Wow.
Et qui me traumatise. Tandis que les Misérables, tout ça, j'adore, donc ce n'est pas ça. Mais... Ou alors est-ce que j'ai trop aimé? Ou j'ai lu trop tôt ce livre quand,
c'est possible, donnez-lui une autre chance. Oui, il y a un rapport, Jacques Vallée?
Ben oui, j'ai aussi un livre que je ne peux plus lire parce qu'on nous a bassinés avec, c'est Le Petit Prince.
Ah oh, ben oui.
De quoi rester traumatisé par cette morale sirupeuse, culpabilisante. Absolument. Ça tient à la fois de la bondieuserie et du chantage. Tu es responsable de ta rose, si tu m'apprivoises, on ne voit bien qu'avec le cœur. Cependant, on écoutait le disque avec la voix de Gérard Philippe et ça nous charmait quand même.
Ah oui, quand même. Sauvé, sauvé. Jean-Bernard Pouilly.
Un peu à cause de Victor Hugo, je déteste la place de la Bastille. Parce que j'avais vu Les Misérables, évidemment, avant d'y aller. Et j'ai toujours regretté de ne pas y voir l'éléphant. L'éléphant où habite Gavroche, qui était le lieu, qui n'a jamais été construit. Du coup, j'évite cette place systématiquement. Sauf s'ils remettent un éléphant. Alors là,
il y a l'opéra qui ressemble un peu à un éléphant. Hein.
Ouais, mais enfin, endormi, alors, hein, complètement. Rétamé. Un hippopotame, je dirais, bah, plutôt.
Patrice Delbourg, un traumatisme.
Été 1956. Quasiment le jour où Valkoviak gagne le Tour de France. Ah. Roger Valkoviak, à la surprise générale d'ailleurs, devant les équipes nationales, un gars quand même de Montluçon, vraiment. Vraiment,
il n'a jamais regagné.
Il n'a jamais regagné après Valkoviak. Oui. Enfin bon. Je suis donc dans ma petite chambrette dans le Limousin. Et un jour, le plafond entorchi de ma petite chambre me tombe sur la tête.
Oh non.
Oui, entorchi. Bon, alors, pas de gravité, juste 17 points de suture. Et puis, une mémoire désormais défaillante. Et depuis, je ne sors plus tête nue. Vous avez remarqué, jamais tête nue.
Ah non, vous avez toujours un chapeau.
Chapeau de préférence, c'est plus sécure que la casquette.
Jacques Vallée.
Nous avons déserté, mes camarades et moi, la carrière du chanteur Hallyday, Johnny de son prénom, quand, dans un temps fâcheux, nous l'avons vu parader en tenue militaire dans le journal L'Équipe et faire l'apologie de la chose.
Ben, il a fait son service en Allemagne.
Oui, mais comme un peu jouant la vedette à un moment où il ne fallait pas jouer la vedette.
Ah.
Oui, beaucoup de gens de son âge à cette époque étaient en Algérie.
Donc, oui, donc vous voulez dire qu'il était planqué. C'est ça.
Bah, oui.
Il allait se marier avec Sylvie.
Mais oui, il va pas protéger Sylvie quand même. Enfin,
bah, mais il n'a pas de cœur. Il ne comprend pas les drames.
Il s'appelle Elvis Presley.
J'ai vu des gens qui étaient abonnés à l'équipe, qui lisaient tous les jours l'équipe, se désabonner, ne plus jamais acheter l'équipe à cause de la photo de Hallyday sur le journal.
C'est bien de nous rappeler la vie, Jacques Vallée.
Ben non, mais c'est les traumatismes ou pas?
Oui, ah ben oui, il semble bien. Sophie.
Je fais un blocage répulsif sur la cervelle d'agneau. Parce qu'en 1997-1998, tous les vendredis soirs à 19h, ma mère mettait à dégorger une cervelle d'agneau dans un verre à la cuisine pour mon père, qui adorait ça, le lendemain midi. Or, cette année-là, j'étais en hypocagne et j'avais des devoirs sur table prévus tous les samedis matins. Donc, en descendant dîner le vendredi soir, j'avais l'impression de voir, dans l'eau sanguinolente, ma propre cervelle en train de dégorger et de rétrécir avant l'épreuve fatidique. Ça vaccine.
Jacques Jouet.
Ma mère me gifle et elle m'entaille la joue droite avec ses ongles longs peints en rouge. Peints en rouge avec mon sang. Moi, je suis plutôt fier de ce stigmate. Pendant longtemps, sur mon passeport, signe particulier... cicatrice joue droite.
Ah oui, mais vous l'avez perdue.
Oui.
Alors, moi, avec ma mère, c'est les glaïeuls, qui sont de très belles fleurs et que je peux voir dans des jardins, mais jamais dans un vase, parce que la chambre d'hôpital de ma mère en débordait le dernier été. J'avais 10 ans.
Moi, je trouve que c'est des fleurs magnifiques.
En hongroise, ça s'appelle les fleurs de sabre, corde virag.
Jean-Bernard Pouilly.
Eh bien, c'était à Londres, il y a longtemps, un jour de l'an. Pas de sous, une chambre d'hôtel pourrie avec un carreau cassé, pas de sous pour mettre dans le compteur à
Ah oui,
à
toutes les heures, il faut...
Et un tube de mayonnaise et 5 biscottes pour le repas du jour de l'an. Et c'est tout. À la radio passait en boucle Michel des Beatles. C'est pourquoi depuis je déteste les Beatles.
Sophie Dibry.
Je fais un blocage répulsif contre Léo Ferré depuis que c'était à peu près en 2001.
Ouais, je comprends. Ouais. Jean-Bernard Pouilly aussi.
J'avais 22 ans, j'étais en vendange dans le Beaujolais et le conducteur du camion qui nous transportait pour aller dans les vignes travailler, tous les matins, à toute allure, il déclamait avec aussi presque peu de musicalité les chansons de Léo Ferré qui mettait à fond dans la camionnette. Et moi qui suis une bonne catholique et une cycliste chevronnée, je me disais que ce serait tout de même très bête de mourir d'un accident de voiture avec Léo Ferré en guise de requiem.
Mais moi, je prends sa défense. J'ai adoré ce chanteur. Il a été un de mes chanteurs continuellement préférés.
Il flanque le cafard, mais alors Jacques Jouet.
Mon père, mon cher père, reçoit le bulletin scolaire. Et il me convoque pour faire les comptes. Je dois sortir ma tirelire. Si j'ai un point au-dessus de la moyenne, il me donne un franc. Si j'ai un point au-dessous de la moyenne, je lui donne un franc. Et tout à l'avenant. Depuis lors, je ne compte pas.
Il a eu des parents un peu bizarres, Jacques Jouet. Il ne faut pas trop creuser. Jean-Bernard Pouilly.
Tout petit, dans un train en Espagne, un compartiment avec les appuis-têtes marrons de... On ne sait pas de quoi, je ne sais pas la couleur, mais enfin, ils étaient marrons, plein d'escarbilles. Et le plus grand souvenir de vomissement intégral...
On est vaguement à l'heure du déjeuner, là, vous savez.
Vraiment tragique, le vomissement, et de mal au cœur. Et depuis, je suis absolument obligé de m'asseoir dans le sens de la marche.
Aussi.
Parce que je m'étais aperçu que c'était à cause de ça.
Mais même dans le métro, dans le sens de la marche.
Les trains. Le métro, ça s'arrête tout de suite, donc bon.
Ah oui, Eva, alors, allez.
Moi, ça voit à Disney, j'aimais énormément, notamment les 101 Dalmatiens, mais aussi, enfin, tous les films. Et puis un jour, je me suis aperçue, c'était un très gros traumatisme, que ces créatures avec des trop grands yeux, avec des trop longs cils, me terrifient. Et donc, j'ai même extrapolé à partir de ces dessins animés. Je ne supporte pas les peluches qui ont des trop grands yeux ou n'importe quoi. Même les humains qui ont des trop grands yeux avec des trop longs cils.
Et les veaux?
Ah, les veaux, oui, les vaches. Les vaches. Ah, voilà, ça j'aime beaucoup, oui. Ah, ça, ah. Voilà, il y a une exception à la règle. Merci de me le rappeler.
Et à part ça, ça va bien, Yvan?
Oui, ça va bien.
Patrice Delbourg?
Dans une école grise, là-bas.
Dans le Limousin.
Dans les faubourgs de Limoges.
Comment vous saviez?
Dans une école grise, j'avais un prof de français, Monsieur Ozotte. Un nain de jardin, albinos, qui votait Tixier-Vignancourt. Il nous abreuvait de Racine, de Corneille, de Molière, avec emphase et sbrouf, mouvement de manche et grande tirade, debout sur l'estrade. Ça m'a définitivement dégoûté du théâtre classique. Les unités de temps, de lieu d'action, la catharsis. Je suis passé directement à l'époque romantique.
Bon. Jacques Vallée.
Je ne peux pas entendre sans crispation le chant des adieux, ce joyeux au revoir Spout. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir. Je me souviens qu'un soir, dans une colonie de vacances, j'étais très petit, un moniteur sur le départ a fait chialer une centaine de gosses en chantant cette rengaine. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il fallait pleurer. J'en avais rien à foutre que ce type s'en aille.
Si t'as la moyenne en rien, tu pourras faire Condé ou pourquoi pas mieux. Ma maman me disait, si t'as la moyenne en rien, tu pourras dominer, car les âmes sont des chiens qu'on tient par le collier. Si t'es économe, que tu fais pas de bruit, si t'es dans la norme, que tu restes assis, si t'as des carences et penses être maudit, rends-toi l'évidence, tu peux réussir ta vie, si t'as la moyenne en rien. Tu peux faire des étincelles, dis-le-toi, dis-toi le bien. La vie, la vie, la vie, c'est comme un tractopelle. Pas besoin de permis, ah, pas besoin de permis, ah, pas besoin de permis, ah, pas besoin de permis.
Pas besoin de permis, c'est elle qui le dit, elle, c'est Vanessa Paradis.
Ma guarda, sono i papolini nella testa e tutto è su Francesca Cultura.
Alors là, je traduis pas besoin, c'est de l'italien. C'est facile, vous écoutez des papous dans la tête sur France Culture. Pour ceux qui ne partiront pas en vacances de février, et nous sommes nombreux, mes rêves d'un moment d'évasion, Nous proposons aux papous des expériences de tourisme minimal, voyager tout près pas cher et être dépaysé cependant. Patrick Beignet, notre tour opérateur minimaliste, propose une évasion plutôt étrange, attestée en compagnie de Jacques Jouet et de Dil Conseil. Ça n'a jamais été fait, Patrick.
Je ne pense pas, non.
Ah oui, j'en suis certaine. Ah bon. En vous regardant, je suis sûre que vous êtes tellement différent de tout le monde. Et alors, c'est quoi ?
Bien, je vous propose la visite du commissariat central.
Ah oui, c'est intéressant, quelle que soit la ville.
Ah non, non, ah, non. Bon, ah oui. C'est dans la ville où j'ai passé toute ma jeunesse.
Oui.
Et c'est un lieu très étonnant.
Oui, on imagine d'ailleurs.
Non, pas la ville, mais le commissariat central.
Oui.
Pour y accéder, vous passez derrière l'église Saint-Maxence, où se trouve un petit square assez sinistre, comme tout le quartier d'ailleurs. Vous vous trouvez devant l'épicerie. Tâchez de ne pas vous faire voir de l'épicière, Madame Dorval, car elle n'aime pas qu'on se rende au commissariat central. Il lui arrive même de prétendre que c'est interdit, mais à ma connaissance, c'est tout à fait abusif. Vous tournez à droite après l'épicerie et vous êtes dans une sorte de no man's land, loin de tout. Vous êtes en face du commissariat central. Une bâtisse en pierre grise, dans un état déplorable. Le toit perd ses ardoises, de nombreux carreaux sont brisés aux fenêtres, dont la plupart sont visiblement impossibles à fermer. La porte unique elle-même est béante. Quelle est exactement l'histoire de cette bâtisse que tout le monde dans le quartier appelle le commissariat central ? Ça n'a jamais été un commissariat, et évidemment pas central, dans ce quartier qui est loin de tout. D'où vient alors cette appellation ? Personne n'a pu me le dire. Certains habitants du quartier disent que c'était autrefois, avant-guerre, disent-ils, mais avec eux on ne sait jamais de quelle guerre il s'agit, que c'était autrefois le presbytère de Saint-Maxence. D'autres, peut-être par anticléricalisme, soutiennent que c'était un bordel, le plus beau du département. Comment s'en assurer ? Il faudrait aller voir au cadastre, mais où trouver le temps ? L'extérieur que j'ai décrit paraît un peu rébarbatif. Non. Et quand on entre dans le commissariat central, on est frappé par la beauté de ces pièces totalement vides. Sans doute tout est sale, décrépit, les murs s'écaillent, et ne parlons pas du plafond, de l'immense pièce qui occupe le rez-de-chaussée. Tout s'effondre, ou plutôt tout paraît sur le point de s'effondrer, mais ne s'effondre pas encore tout à fait, comme si la bâtisse attendait patiemment que vous ayez tourné le dos pour basculer dans un néant poussiéreux. D'où vient que l'endroit ait tant de charme, demanderez-vous, alors que je ne peux en donner qu'une description peu avenante. C'est qu'une fois entré là, on découvre que tout est possible et que rien ne gâche encore ce possible. Louis XIV a dû avoir la même sensation la première fois qu'il est entré à Versailles, vide encore, avant qu'il n'ait la désastreuse idée d'y entreposer son stock de marbre et de dorures. Oui, un bref instant, Louis XIV a pensé comme moi. Et puis il a cédé au vieux penchant des Bourbons pour la frime et le tape à l'œil. Lorsque je parcours cette grande salle aux murs lépreux, je pressens des merveilles. Je devine sur ces parois qui s'effritent des fresques presque totalement effacées, incapables de dire si elles représentaient des sujets libertins, fresques de bordel, comme le laissent supposer dans un coin ces formes roses que je devine, ou bien seraient-ce des fresques mystiques de presbytère, à la manière de Giotto, comme je crois ailleurs le discerner ? Qui peut le dire ? Et au-dessus de la cheminée, cette pauvre cheminée de marbre, affreusement fracassée, je crois voir une grande forme qui aurait pu ressembler comme deux gouttes d'eau à l'arc de triomphe pour Maximilien Ier, conçu en 1515 par Dürer. Si vous ne me croyez pas, je vous renvoie au livre de Panofsky, et je n'insiste pas pour ne pas vous paraître pédant.
C'est très gentil. Mais alors, vous diriez que c'est une expérience qui dure combien de temps ? Mettons qu'on ait une petite heure, ça marche ?
Oh, à mon avis, oui.
Oui.
Même le temps de vous ennuyer.
Non, c'est vrai. Ben, moi, je trouve ça très alléchant.
Il faut le temps de s'imprégner.
Ça dépend aussi de votre connaissance de Panofsky, oui.
Oui, exact.
Il faut s'imprégner de l'esprit du lieu.
Voilà, exactement.
Un peu de temps. C'est tentant, non, Dil ?
Oui, tout dépend des possibles qu'on a dans la tête. Si on a beaucoup de possibles, ça peut durer longtemps, hein, peut-être.
Ah, mais il y a des gens qui ont une vie intérieure, madame.
Il paraît, oui.
Jacques Jouet, bon, c'est une expérience intéressante. Je ne sais pas si elle est rigolote, mais bon, visiter le commissariat central, ça paraît assez exaltant quand même.
Ah ben, tel qu'il était décrit par le texte qu'on a entendu, oui, ça donne très envie d'y aller.
Donc vous y êtes allé pour nous ?
Alors, je suis allé vers ce que je croyais être le commissariat central.
Ah.
Effectivement, derrière l'église Saint-Maxence, je passe distraitement devant l'épicerie et je tombe sur un ouvrier qui était en train de coller des affiches du Parti communiste. Je lui demande où se trouve le commissariat central, le CC. Il sourit, me fait un clin d'œil, me fait signe de le suivre et il me dit bizarrement « Vous êtes le premier. Je suis heureux de voir cet endroit reprendre du service. » Il me désigne la porte et me salue en levant le poing. Il ajoute « Bienvenue au comité central ». Ce n'est donc pas le commissariat central, mais le comité central. Effectivement, c'est grand, c'est vide, c'est sombre, c'est silencieux. C'est impressionnant. Les plafonds sont un peu plus hauts que dans la description qui a été faite.
Mais il est plus grand que vous, Patrick Beignet.
Oui, ça doit être ça.
Donc voilà, tout est relatif.
Pourquoi n'avait-il pas mentionné la présence de cet élément incongru, un radiateur, hein, ces vieux radiateurs en fonte comme il y en a dans les vieilles écoles et dans les commissariats aussi. Le radiateur est froid et aucune canalisation n'en part ni n'y arrive. Au-dessus du radiateur, effectivement, une fresque, deux fresques, trois fresques de Boris Staslitsky.
Eh oui.
Et même s'il n'est pas aisé d'identifier à coup sûr ce qui est figuré, du coup, maintenant que je sais que c'est le comité central, je reconnais très bien Lénine occupé à lire un journal, je reconnais très bien Lénine à la tribune penché en avant la bouche grande ouverte, et je reconnais enfin très bien le mausolée de Lénine.
Ça ne vous a pas rendu joyeux hein, comme expérience quand même.
Non, c'est...
Vous aviez un ton
c'est
triste
pas, c'est pas triste, c'est grave.
Raconter, c'est grave. Et vous recommandez l'expérience quand même ou pas?
J'aimerais bien qu'Odile aille voir cet endroit.
Justement, je l'ai envoyé aussi bien, parce oui. que avant de publier un guide de tourisme minimal où on mettrait l'expérience au commissariat central, il faut au moins plusieurs testeurs. Donc vous avez testé aussi, même impression que Project Jouet.
Non, c'est très différent parce que en fait, je visite cet endroit, mais aussi je le fais visiter. Parce que vous avez bien compris que cet endroit abandonné est en vente à qui veut bien l'acheter. Donc, j'accompagne quelqu'un qui est susceptible d'être intéressé par ce lieu.
Ah oui, pour faire son appartement.
Je crois que c'est le lieu idéal pour votre activité. Vous m'avez bien dit que vous souhaitiez créer un élevage d'escargots. Non, de grenouilles. Un élevage de grenouilles. Ah, mais c'est parfait aussi. Ici, c'est le lieu de tous les possibles. Aucun problème. Bon, d'abord, la situation, à la fois centrale et excentrée. Les grenouilles ne seront pas dérangées par le bruit des voisins. Comme vous voyez, il n'y en a pas. Vous n'aurez pas besoin de refaire le toit, au contraire. La pluie qui tombe ici 297 jours par an, donc dans le grenier, offrira une ambiance propice aux animaux. En plus, il n'y a pas de chauffage, mais vous n'en aurez pas besoin. L'électricité est hors d'usage, mais elle n'est pas indispensable à votre activité. Vous pouvez donc commencer demain. J'imagine très bien là, dans la grande pièce, le bac à tétards. Une fois devenus batraciens, ils auront tout l'espace pour sauter de-ci, de-là, sur la cheminée, dans l'escalier, dans un joyeux bordel, si vous me passez l'expression. Comment ça, bordel? Je croyais que c'était un presbytère. Oh, mais bien sûr, si vous voulez. Dans ce cas, vous n'aurez qu'à élever des grenouilles de bénitier.
Et tout ça, elle a écrit une page, tout ça pour la chute, qui est très bonne. Vous avez l'air déconcerté par ces points de vue de visiteurs. Ils ont l'air assez honnêtes. Hein. Ils ont fait la démarche, ils sont allés. Et chacun a un ressenti différent.
Oui, je vois que vous cherchez à les excuser.
Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressart et la bande des papous du jour à suivre. Jusqu'à 13h58, vive le Japon, avec une publi-papoucité spéciale haïku, l'impressif Polo Polo soumis par Véronique Brindeau, décodage de Serge Joncourt, Patrice Caumont et Lucas Fournier, et enfin un échange épistolaire entre Monet et son jardinier fou du Japon, parler de Jacques, Valet et Jouy. Ceci est une pub, mais culturel et décalé ou publie Papoucité, proposé par Hervé Le Tellier avec Jeanne Carillon, Patrice Caumont, Eva Almassy. C'est à vous, Hervé.
Rien ne dit dans le chant de la cigale qu'elle est près de sa fin. C'est beau, c'est joli, c'est vraiment très japonais, c'est un haïku.
C'est de qui ?
C'est de Bachot. S'il vous plaît, n'interrompez pas cette publie Papoucité, ce n'est pas un dialogue, d'autant que j'en ai un autre. Papillon voltige dans un monde sans espoir.
C'est magnifique. Ce n'est pas très gai, mais c'est très beau.
Oui, alors, c'est de Kobayashi Issa. Et Issa, vous allez rire, ça veut dire tasse de thé.
Comme c'est poétique, on sent bien l'universel qui s'exprime à travers le détail et l'infiniment petit. Mais pardonnez-moi, son prénom à Issa, c'est bien Kobayashi.
Absolument, et d'ailleurs je voulais dire...
Alors, je vous prie de m'excuser de vous interrompre, mais il faut le mettre après le prénom. Il faut dire Issa Kobayashi.
Issa Kobayashi, vous êtes certaine ?
Si, je suis certaine, mais j'en suis totalement sûre, mon pauvre ami.
Bah, très bien, alors Issa Kobayashi, excusez-moi, mais mon savoir est tout neuf. Je continue, si vous,
vous voulez
bien.
Vous en avez un autre de Issa ?
Tout à fait, je suis venu avec un stock. Grimpe en douceur, petit escargot, tu es sur le mont Fuji.
Pas mal. Vous avez remarqué cette symbolique sexuelle ?
Non, une symbolique sexuelle ?
Évidemment, le mont Fuji, voyez-vous, c'est le sexe féminin. Le triangle.
Ah ouais, bien sûr, ouais, ça se tient. Ouais.
Et le petit escargot, c'est le sexe masculin, c'est évident.
Soyez polis. Hein.
Et vous connaissez toute la poésie d'Issa ?
Non, il en a écrit 20 000 des haïkus. Je ne peux pas les connaître tous, excusez-moi, je voudrais poursuivre cette publie papoucité.
20 000 haïkus, c'est beaucoup.
Surtout quand on pense qu'il les a écrits en japonais.
Et vous en connaissez en japonais au moins ? Parce que ça perd beaucoup hein, dans votre traduction.
Non, je ne les connais pas en japonais, mais j'ai regardé dans Wikipédia. Alors... Tsuyu yo no wa, tsuyu yo yo nagara, suri nagara. Rosé que ce monde-ci, oui, sans doute, et pourtant.
Ah ben voilà. Vous, je ne sais pas, mais moi, je trouve qu'on sent mieux la rythmique en japonais. D'abord 5 syllabes, ensuite on en écrit 7, et puis encore 5.
Et vous en avez un de Buzon ?
Buzon, oui, oui. Alors attendez, voilà. Yosa Buzon, chaque fleur qui tombe, les fait vieillir davantage, les branches de prunier.
Bon, merci beaucoup pour cette publique papoucité. J'espère qu'on ne vous l'a pas trop gâché.
Non, je voulais juste ajouter que...
Attendez. Pour finir en beauté, vous pouvez nous en écrire un rapide ?
Absolument. Donc voilà, 5-7-5. Elle se finit là, ma publique papoucité, pour les haïkus.
Il n'est pas terrible, votre haïku.
Ouais. Bon, bah, vous avez raison, mais au moins, quand un haïku est raté... Il est court.
Et là, vous avez raison, Hervé. Et on reste au Japon avec Véronique Brindeau. Tout comme Hervé Le Tellier, Véronique est fan de haïku. Elle a même écrit un très joli livre pour les petits, mais aussi pour les grands, qui s'intitule « J'écris des haïkus », illustré par Sandrine Thomen chez Piquet Jeunesse. Et puis, Véronique Brindeau, c'est aussi elle qui initie les papous à l'impressif. Alors, l'impressif, c'est une onomatopée qui dit tout en deux. En deux parce que le mot est le plus souvent doublé. Souya souya, chito chito, peko peko, il dit tout. Le bruit, l'impression ressentie, le sentiment. Et aujourd'hui, jour de Setsubun, nous jouons avec Polo Polo. Alors, Setsubun, qu'est-ce que c'est ? Écoutez bien, c'est le début du printemps dans l'ancien calendrier lunaire. Et on le célèbre aujourd'hui. Afin de faire fuir les forces néfastes des démons qui cherchent à envahir le foyer à chaque nouvelle année, c'est pas bien. Et pour attirer la bonne fortune dans la maison, ça c'est beaucoup mieux, il est de tradition de lancer des graines de haricots grillés par les fenêtres des maisons en criant « Et là, je passe la parole à Anne de Pelchin qui réalise l'émission et a fait japonais en LV3 ».
Oni wa soto, fuku wa uchi.
Quel magnifique accent. Ce qui signifie, Anne ?
Dehors les démons, dedans le bonheur.
Un jour pour faire entrer le bonheur dans sa maison, Setsubun, presque homophonique de c'est si bon. C'est un jour à fêter avec vous tous. Et on joue avec l'impressif Polo Polo, qui a été confié à Serge Joncourt, Patrice Caumont et Lucas Fournier. Tous trois ont imaginé un sens pour cet impressif et inventer des pastiches d'écrivains fameux qui auraient utilisé Polo Polo dans leur œuvre. Alors, on dit Polo Polo en traînant un peu Véronique Brindeau ou rapidement Polo Polo ?
Oui, c'est tout de même quelque chose de vif et de léger. Polo Polo.
Polo Polo. Donc, Polo Polo, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? À chacun ses réflexions qui portent vers tel ou tel sens. On va d'abord découvrir le sens que Lucas Fournier a donné à Polo Polo.
Un bain.
Un bain.
Un bain, mais pas n'importe quel bain. Un bain tiède et en voie de refroidissement, dans lequel on reste à macérer et duquel on n'a pourtant pas envie de sortir, parce qu'on redoute que dehors il fasse encore plus froid.
Donc c'est à la fois agréable et on a peur que ça s'arrête.
Oui, et ça devient un peu moins agréable, mais...
C'est comme un match de water polo.
Oui.
Polo, polo.
Oui.
C'est pas très calme, un match de water polo.
Vous avez joué au water polo, j'ai l'impression, Serge. Oui. Parce que vous avez un peu le format, quand même. Il faut bien dire aux auditeurs que vous avez fait de la natation, beaucoup.
Voilà. Et d'ailleurs, ça m'a servi...
Pour polo, polo.
Absolument.
Ah oui, qu'est-ce que vous avez trouvé comme signification?
Eh bien écoutez, c'était étonnant parce qu'on n'est pas loin du bain. Le polo-polo, c'est le mouvement léger d'une surface aqueuse, au repos, mais qui n'est pas plane, mais pas agitée non plus.
C'est comme un lac dont la surface frissonne très légèrement.
Vous y êtes, en plein dedans.
En plein dedans.
Ah oui. Ah
oui. Mouvement très léger sur l'eau.
Comme un bouillon de poule un peu.
Polo, polo, polo.
Non, mais là, ça fait très japonais, quand même, comme impression. Outré Lamartine, je ne sais pas, on va voir plus tard. Pour vous, Patrice, comment il y a ce même rapport avec l'eau que chez Lucas Fournier, que chez Serge Joncourt dans
Polo Polo. Dans le premier sens historique de Polo Polo, on est sur l'eau, une eau calme, plate,
pareil,
à peine ridée.
Oui.
On est d'accord.
Et dans le deuxième sens
Dans le deuxième sens, on n'est plus du tout.
On est où?
Dans le deuxième sens, c'est un refus.
Ah oui, c'est pas pareil. Du tout, du tout.
Mais parce qu'il est dans le sens d'origine du mot.
Oui.
Jusqu'au 19e siècle. Et après, ça a changé.
Oui.
Et maintenant, l'expression, c'est une marque de dédain. Oui. C'est le popopopo.
Ah oui.
C'est le popopo japonais.
C'est un peu le popopo français.
Ah, d'accord, un peu méprisant. Oui. Véronique Brindeau, entre ces trois atmosphères, deux assez mouillées et le dédain de Patrice Caumont, quelle est celle qui se rapproche le plus de polo polo japonais?
Alors, je suis très frappée hein, tout de même par cette perspicacité de nos papous réunis, puisque... Peut-être est-ce que le lot de polo les a entraînés vers ce domaine aqueux, mais en tout cas,
c'est probable,
il est souvent présent dans les acceptions de polo-polo.
Ouais.
Oui.
Et le dédain, le léger mépris.
La négation, ça m'a plutôt fait penser au polope qu'on trouve dans certains romans, avec une langue plus familière pour dire non, pas question. Mais non, il n'y a pas de dédain dans ce polo-polo.
Mais il y a l'eau, hein, vous êtes fier de vous, Serge.
Oui,
content.
Bah oui, pour une fois.
Quels écrivains avez-vous retrouvé, Lucas Fournier, qui se sont donc intéressés à ce polo-polo, avec pour vous le léger sens de voilà, on est dans un bain, c'est bon, mais ça commence à refroidir.
C'est un écrivain qui prenait son bain souvent.
Oui.
C'est Montaigne.
Ah.
Le même jour après Disney. C'est pas Disney.
Non, c'est pas Disneyland. Non,
il écrit comme ça. Je me baignais, j'y fus une demi-heure et m'émeut qu'un peu de sueur. Je sens toi quelques poisanteurs de reins que je craignois, que les eaux mêmes me causassent et qu'elles y croupissent.
Oui.
Je pissois dans le polo-polo pour l'échauffer, car on ne connaissait point à Luc l'usage des poêles d'Allemagne, qui est très commode en hiver pour chauffer tout ce qu'on veut.
C'est pas mal, hein. Ça ressemble bien à Montaigne, oui, je sais pas.
Oui, il est allé se baigner à Luc, parce qu'il passait sa vie à prendre
sauf
des bains.
Sauf l'accent.
Je pissois.
Je vois pas pourquoi il abandonne son accent, alors que Montaigne avait un fort accent.
De la Malou?
Non, de Bordeaux.
De Bordeaux,
oui.
Il ne disait point je pissois, mais je pissouais.
Ah, alors ça...
J'ai rarement entendu Montaigne.
Faites-nous ça
je
avec...
Je ne suis pas de la même génération.
Avec l'accent.
Je ne suis pas de la même génération. C'est
tout le monde à l'époque, jusqu'à la fin du 18e... Les voix se disant oui.
Qu'est-ce que ça donne, Lucas Fournier, avec le parler Montaigne, donc?
Je sens toué quelques poissanteurs de reins que je craignouais, que les eaux mêmes me causassent et qu'elles y croupissent.
Ah oui, ça.
Je pissouais dans le polo-polo pour les chauffer, car on ne connaît soué. Point à Luc, l'usage des poêles d'Allemagne, qui est très commode en hiver pour chauffer tout ce qu'on veut.
J'aimerais bien avoir le point de vue de Véronique Brindeau sur ce pastiche de Montaigne.
Elle est effondrée.
L'eau est moins abondante tout de même. Elle est tiède, oui, certainement, mais elle est moins abondante.
Bon, alors on va voir si l'eau est toujours aussi abondante avec Sergencourt. Probablement, puisqu'on est à la surface d'un lac.
Oui.
Et l'eau frissonne très légèrement. Et c'est ce léger, tout léger mouvement voilà. qui fait polo-polo.
Oui.
Hein, vous l'avez retrouvé chez qui?
Oh, bah, chez Duras. Parce
que... ah, ah, bah, évidemment. On y aurait pensé.
Je suis allé tout de suite, je veux dire. Sans,
oui.
Sans trop réfléchir. Hein.
Oui.
Je prends un extrait très court, hein, parce que je ne veux pas non plus vous.
Nous lasser, mais Duras ne lasse jamais.
Court, hein. Jamais. Nager, dit-elle. Nager, mais ne pas ôter son pull avant de nager. Plonger à la mer. L'homme la regardait faire. Elle s'avança droite dans l'abîme. Le polo-polo lui enroba le corps sans un frisson. Elle marcha 100 mètres. Elle avait toujours pied, mais froid, comme dans un lac asséché où il ferait froid.
C'est bien, moi j'aime bien le sens de la répétition chez Duras.
Ah oui, oui, c'est un peu le polo-polo.
C'est sa
polo
musique.
Oui, c'est sa musique.
Oui. Oui. On est plus proche de l'ambiance Duras ou de celle de Montaigne, Véronique?
Moi j'ai eu du mal à me retrouver dans ce lac asséché avec polo-polo, parce que s'il n'y a plus l'eau, ça devient difficile d'avoir polo-polo.
Ah. Comme dans un lac asséché, oui. Où il ferait froid, on peut supposer... Licence poétique.
Il y a des étendues d'eau où on ne peut que marcher, on ne peut jamais nager parce qu'on a toujours pied.
Ça, oui, ça m'est arrivé, ça, oui. Vers le Cap Ferret. Oui.
Oui, exactement.
Oui.
Exactement.
Un bain de minuit, j'ai marché un kilomètre et j'avais de l'eau jusqu'à la taille. Oui.
Bon, moi je reviens vers vous, Patrice Comont. Vous avez tout à l'heure abordé très rapidement le sens de Polo Polo. Vous avez parlé d'une eau calme dans un sens premier, et puis ensuite du refus. Alors éclairez-nous, Patrice Comont, sur tous ces sens possibles de Polo Polo, grâce à une citation d'un grand écrivain qui s'est intéressé à Polo Polo.
D'un grand poète, oui.
Oui, c'est qui?
Robert Desnos.
Ah oui.
Le plus grand parmi les plus grands. Pour échapper à la solitude, elle élude les préludes, Gertrude. Elle se dénude sans incertitude. Elle ne dit jamais non pour un tour de vélo. Elle est plus rude que prude, Gertrude. Mais pour la tendresse, c'est Polo Polo. Laisser toute latitude au parcours de sa longitude, c'est sa volontaire servitude. Elle trouve ça rigolo. Bonne patte, elle attend son rouleau. Son attitude mène aux turpitudes, mais jamais au mélo. Gertrude, pour la tendresse, c'est plutôt Polo Polo. En toute quiétude, elle attend l'amplitude. Parfois, elle atteint l'altitude de béatitude. Mais c'est toujours en solo. D'habitude, elle s'enlise au palude des lassitudes, au moindre trémolo. Gertrude. Pas la peine d'en faire des kilos. Le cœur et ses mots, pour Gertrude, c'est du polo-polo.
C'est bien, hein? Non, vous n'avez pas l'air d'apprécier, Véronique.
Non, oui, j'apprécie chaque rime en ude, parce que j'en manquais, et ça me fait du bien. Je pense que ça m'a
enrichi mon vocabulaire. Oui, j'ai noté au fur et à mesure. Oui.
Mais pour ce qui est du sens de polo-polo, on est plus éloigné, oui.
Ah oui.
Je le crains.
Et oui, parce qu'on a perdu un peu l'eau, quoi. Enfin, l'eau est lointaine.
Reste la peau.
Reste la peau. Oui, c'est vrai. Sergencourt, on va partir ailleurs. Hein, donc on vous retrouve, il y a la rive, il y a l'eau du lac, cette eau qui frissonne très très légèrement au son du polo-polo.
Oui. C'est pour ça que j'étais surpris de la trouver chez Pierre Loti.
Oui, pourtant il aime la pleine mer. Lui.
Alors, après la tempête et ses tonnes de poissons hissés au soir, ils se posèrent tous devant une assiette de soupe fumante. Les pauvres hommes fatigués soufflaient sur leurs assiettes chaudes, hypnotisé par le polo-polo du potage.
Ah, on le réécouterait bien une deuxième fois, parce qu'on y était, et puis ça s'arrête tout de suite. C'est dommage. Si, c'est juste pour le plaisir de la langue.
Mais la soupe va refroidir. Après la tempête et ces tonnes de poissons hissés, au soir, ils se posèrent tous devant une assiette de soupe fumante. Les pauvres hommes fatigués soufflaient sur leur assiette chaude, hypnotisés par le polo-polo du potage.
Ah, c'est bien. Hein.
Ils n'étaient plus à bord. Parce que...
Si, justement, c'est ça qui est.
Ça ne bougeait pas.
Ça bougeait.
Mais à peine.
À peine, vous savez, c'est, à mon avis, le frissonnement du moteur.
Mm. Véronique Brindeau.
Alors, moi, j'aurais une question à poser à Sergencourt. Est-ce qu'ils mangent du pain en même temps que leur soupe?
Ah oui, alors là, je ne vous l'ai pas dit, mais effectivement, les pains ne mangent que ça. Mais,
ouais. Alors là, ça, c'est important, oui.
Mm. Ah bon?
Oui, parce que le polo-polo, vous voyez, c'est quelque chose de petit, de fragmenté, qui s'échappe.
D'accord.
Alors, des miettes, par exemple.
Oui. Bon, alors, effectivement, avec vous, Patrice, comment on est dans la nourriture?
C'est une histoire de miettes.
Non. De pépites avec
non,
vous.
Pas de miettes philosophiques, mais non. De miettes de lettres. C'est un texte de Laclos.
Chauderlo.
Oui. Une lettre de Valmont, mais qui est absente, d'ailleurs, de la première édition des Liaisons.
Oui.
Une lettre à la marquise de Merteuil.
Oui.
J'avoue que j'espérais alors que tout cela ne serait point peine perdue, et j'osais croire enfin que tant d'efforts, accentués de jour en jour, seraient récompensés à courte échéance. Nous laissâmes la gouvernante se retirer et nous restâmes auprès de la petite. J'espérais d'elle l'évanouissement de ses juvéniles scrupules, la disparition du moindre soupçon à mon égard. J'attendais d'elle des brassées de serments, des aveux d'aimer encore et toujours, en un mot, une capitulation sans condition de cette citadelle que j'assiégeais depuis trop longtemps et vers lesquelles, à l'égal des sapeurs, j'avais percé des chemins souterrains pour passer outre ces murailles de vertu que je n'eusse su escalader. Je pensais être assez proche alors de sa chevelure pour la saisir comme à l'étouffer et l'embrasser pour qu'elle suffoque sans pouvoir exprimer un mot. Je l'imaginais se laissant aller dans mes bras et se renverser pour me laisser m'octroyer quelques droits sur ses courbes. « M'aimeriez-vous donc, murmurai-je, avoueriez-vous enfin que mon inclination pour vous reçoive en miroir un penchant pour moi ?» Et là, tout à coup, aussi vite qu'un ciel d'azur vire au plus sombre orage, son visage changea et le sourire de Madone se fit rictus de créature. « Polo, Polo, mon doux vicomte, voyons d'abord si votre hommage sera aussi galant que votre ramage. Besognez-moi donc, en aval et en amont, et plutôt deux fois qu'une. Vas-y, mon Valmont. » Faut-il préciser, ma douce amie, que ce Polo, Polo m'a bel et bien coupé l'orgueilleux sifflet.
Il y a le dédain, effectivement, hein, les miettes, l'âge des miettes, quoi. Et c'est pas grand-chose. Donc on retrouve vos miettes, les vraies miettes de Polo Polo, Véronique.
Oui, oui, oui.
Vous étiez au sens propre.
Oui.
Ah oui,
c'est pas littéral. Tout à
fait, mais moi, j'ai entendu au début, quand il dit peine perdue, j'ai entendu pain perdu.
Oui, bien, c'est pain perdu, d'ailleurs. Donc, c'est,
oui,
c'est,
oui,
il dit, voilà, avec il les dit dans la lettre, il dit mamie.
Oui,
c'est ça. Alors, on veut tout savoir sur Polo Polo, Véronique Brando.
Alors, Polo Polo, c'est quelque chose de petit, quelque chose de fragmenté, qui s'échappe de quelque chose.
Oui.
Des miettes de pain, bien entendu. Mmh. Hein. Oui. Polo Polo Kobosanai arrête de mettre des miettes partout.
Ah, ça.
Et donc, ce qui fait des miettes, c'est la baguette en particulier,
oui.
Ce qu'on appelle le pain français, poulain sous pain, c'est la baguette.
Ah, c'est pas la baguette laquelle on mange le riz, non.
Non, non.
La baguette de pain. Poulain sous pain au taberuto, pan konga, teburoni, polo polo ni uchiru. Quand on mange de la baguette, il n'arrive que ça fasse tomber des miettes.
Voilà.
Donc ces petits morceaux qui tombent, ce sont des miettes. On trouve un emploi un peu moins prosaïque chez Miyazawa Kenji, un auteur du tout début du XXe siècle, qui donne la description suivante à partir de cocons de verre à soie, d'où s'échappent peu à peu les papillons. Donc, soto ni oita mayu kara wa okicho ga polo polo tobi hajimashita. Donc on voit les papillons qui s'échappent les uns après les autres des cocons.
Et ça, c'est Polo Polo.
Ça, c'est Polo Polo, mais l'emploi le plus ordinaire, ce sont tout de même les larmes qui perlent aux yeux. Et ça, c'est l'emploi le plus habituel de Polo Polo. Un dernier sens, c'est un peu plus abstrait, qui est un secret qui se dévoile peu à peu, petit à petit. Donc on laisse échapper peu à peu des éléments du mystère.
Oui.
Et on dit dans ce cas, Kakushikotonga Polo Polo to Wakaru ni naru. On comprend peu à peu le mystère.
Oui, c'est comme à la fin d'un livre d'Agatha Christie, quoi. Petit à petit, on va comprendre qui a tué et pourquoi. Mais c'est lâché par petites miettes.
Par petits morceaux, oui, successifs.
Oui.
Alors j'ai trouvé dans une chanson de Nosaka Akiyuki, qu'on connaît, je pense, en France pour son roman La tombe des Lucioles, qui était adapté au cinéma. Et Nosaka Akiyuki écrit aussi des chansons. Il y a, je pense que la plupart des enfants japonais connaissent son Omocha no cha-cha-cha, le cha-cha-cha des jouets. Et il a écrit aussi une chanson dans laquelle il s'amuse à rassembler plusieurs impressifs. Alors on a successivement Hara-hara, Hiri-hiri, Holo-holo et Polo-polo.
Est-ce que Patrice Comon, qui a beaucoup travaillé toute cette semaine sur cette chanson, serait en mesure de nous en chanter un petit bout?
Oui, je crois que l'auteur va être encore plus regretté. Ara, ara, to,
araharato, sakura kirimazu, araharato, irihirito, irihirito, kizuvashimimazu, irihirito. Et après, ça devient un petit peu haut.
Ah oui.
Oro, 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 aruna umova, poro, poro, namiklo, kobore mazu.
Oh, c'est délicieux, hein. Vous connaissez la suite, Véronique?
J'avais eu un peu de mal à reconnaître au départ, mais finalement...
C'est l'accent. Ouais. Ah non, mais c'est l'accent de Châteaudun,
ça. Elle est Kobe, oui. Elle est Kobe, nous, on est du Sud.
Peut-être la fin de la chanson.
Oui, ou... bah, c'est ce que j'appelle la suite.
Hein.
La
fin, oui.
Oui, oui.
Donc le début de la chanson disait « Les pétales de cerisier se répandent, hala hala », donc un oui. mouvement de dispersion.
Oui, parce que Patrice Comeau a chanté sans savoir ce qu'il chantait. Ça s'entendait, mais très légèrement.
C'est pas sûr, hein.
Ensuite, hiri hirito, kizuashimimasu, la blessure est cuisante.
Oui.
Hiri hiri, c'est ce qui vous pointe. Et ensuite, la chanson dit, holo holo haru no omide wa, les souvenirs du printemps se défont, poro poro namida koboremasu, et les larmes coulent. Hara harato, hara harato, sakura chirimasu, hara harato. Hiri hirito, hiri hirito, kizu wa shimimasu, hiri hirito, holo holo haru no omoide wa, polo polo namida koboremasu.
C'est joli, on imagine Véronique avec son kimono là, au pied d'une pagode.
Tombée,
oui, c'est beau, ah, ça c'est fait beau. Des pétales sur son kimono
on
noir.
On la voit dégrafer son hobby.
Ah, carrément. Un mot de conclusion sur Polo Polo, Serge.
En battant tant de poésie, moi je suis tout étourdi encore. Pour ma part, j'ai préféré la version homme du Polo Polo. Oui, mais...
Moi, je pensais à Kirite Kanawa, qui, elle aussi, chantait de façon phonétique. Et,
oui.
Et Patrice Comeau.
Il a fait ça.
Voilà, depuis Kirite Kanawa, personne n'avait chanté ici de façon phonétique.
Et je vous recommande le disque de Noriko Kato, qui est japonaise, donc, et qui chante Bobby Lapointe, notamment La Maman des Poissons, totalement phonétiquement. Et on se rend bien compte qu'elle ne comprend pas un mot de ce qu'elle chante. Et c'est bon, extrêmement ça. Joli. Je vous l'offrirai, Serge.
Ah, bah, avec plaisir.
D'ailleurs, on l'écoute tout de suite.
Si l'on ne va pas purer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, le maman ne les gronde. Quand ils se lient à fait pipi au lit, ou bien solution c'est ou à cacher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne jamais la vie ne leur fait jamais de tartine. Ils mangent quand ils sont en vie. Et quand ça a dîné sardine, la maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les soucis. Ces petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Les matures l'aiment bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. S'ils veulent prendre un petit verre, elle les a peu. Comment s'en donner? On les décroche de leur papier. La maman des poissons, elle a l'œil du rond. On ne la voit jamais froncer les soucis. Les petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Et moi, tu l'aimes bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. S'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui les empêche de se faire des rêves sur le dos. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les soucis. C'est petit, l'aime bien, elle est bien gentille. Et moi, tu l'aimes bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. J'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle y fait la nique, ah, qu'est-ce que tu me fais marrer. La maman des poissons, elle a l'œil tout. On ne la voit jamais froncer les soucis. C'est petit, l'aime bien, elle est bien gentille. Et moi, tu l'aimes bien avec du citron.
Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, un échange de lettres qui dévoile l'origine d'une série de toiles connues dans le monde entier. Jacques Vallée, pour la première lettre qu'on va découvrir, vous avez choisi d'être quel grand nom de la peinture ?
Je suis un certain Claude Monet et j'écris à un certain Latour, qui est horticulteur pépiniériste.
C'est votre fournisseur habituel pour les jardins ?
Ou peut-être occasionnel aussi. Monsieur, si je me suis adressé à vous, c'est que vous êtes le spécialiste des plantes aquatiques d'Extrême-Orient. Vous savez ma fascination pour la culture japonaise et mon admiration pour l'œuvre d'Okuzai. Je vous rappelle que c'est pour créer un jardin d'inspiration japonaise que j'ai acheté un terrain jouxtant ma propriété de Giverny, traversé par un petit cours d'eau. Bref, c'est là que vous deviez intervenir en me livrant pour garnir cet étang des bambous et des lotus. J'avais souligné l'extrême importance que j'attachais à cet aménagement. Les critiques, en effet, m'avaient fait l'honneur de rapprocher les grandes étendues jaunes de mes tableaux de l'art japonais. Et je voulais poursuivre mes recherches picturales dans cette direction. Je reprends donc les termes de ma commande. J'avais bien précisé des plants de bambou, le Shimono Bambusa japonais et de lotus, le Nelumbium roseum japonicum, bambou et lotus qui sont les plus emblématiques des terres nippones. Eh bien, mon vieux, vous êtes mélangé les pinceaux avec ma commande. Confiant, j'ai planté vos rhizomes et attendu patiemment la floraison. Quelle ne fut pas ma surprise de retrouver mon étang recouvert de nénuphars. Des nénuphars, de vulgaires nénuphars. Je me retrouve pour une exposition, forcé de peindre ces larges feuilles flottantes qui recouvrent tout l'étang et ces taches ici et là de grandes fleurs que je déteste, blanches, jaunes, fuchsia, rouges. Edmond de Goncourt, venu voir mon travail, les a qualifiées de petites crottes.
Oh non, il est sévère.
Edmond de Goncourt était très sévère.
Ah oui, il avait la dent dure, oui, c'est vrai.
Il est connu pour ça. Ouais. Moi qui voulais donner une impression du pays du soleil levant, je me retrouve avec cette profusion digne de trifouiller les oies. Le bambou, bon Dieu, c'est le mouvement, c'est la pensée. Le lotus sacré, véritable culte au Japon, c'est la féminité, la lumière. Imaginez que j'aurais pu peindre dans ces fleurs l'incarnation de déesses aquatiques. Alors que par votre faute, j'en suis réduit à peindre ces bousses de vaches vertes sur un étang glauque. Comment voulez-vous dès lors que mon pinceau capte sur la toile l'instant fugace ? Monsieur, vous rendez-vous compte du préjudice que vous causez à mon œuvre en me ravalant au rang de peintre de nénuphar ? Il est hors de question, hélas, que je puisse revenir en arrière. J'ai déjà peint une vingtaine de tableaux qui vont être exposés et j'ai une commande de Clémenceau pour plusieurs panneaux qu'il songe installer dans l'orangerie du jardin des Tuileries. Dites-moi cependant ce qu'il vous est possible de faire pour me dédommager et remplacer ces fatales plantations où je constate depuis quelques jours un jaunissement prématuré du feuillage. Bien à vous, Claude Monet.
Je pense qu'il se rendra compte un jour de son erreur, mais...
Ben oui, puis on veut du japonais, on ne file pas des nénuphars.
Évidemment. Oui, enfin,
le document est authentique, c'est une histoire vraie que là.
Il a fait une commande de lotus, mais ça n'a pas marché.
C'est dans le journal des Goncourt que Jacques a lu tout l'été.
Que Jacques a lu tout l'été. Mais alors, qu'est-ce que vous avez inventé dans l'histoire, Jacques ?
Ah non, mais c'est pas, non, pas, y a pas cette histoire. Non, il n'y a pas cette histoire.
On vous taquine. Jacques Jouet, vous êtes monsieur Latour.
Oui, je suis monsieur
lui-même.
Latour.
Lui-même. Alors, qu'est-ce que vous lui avez fourni comme rhizome ? Vous êtes trompé ?
Non, je ne me suis pas du tout trompé, c'était intentionnel.
Ah bon, c'est Monet qui a mal interprété alors l'envoi.
Non, mais parfois il faut savoir donner des petites leçons au plus grand maître.
Ah oui, donc vous lui répondez.
Oui. Mon cher maître, avec tout le respect que je dois à votre génie, avec toute l'admiration que je réserve à votre touche, avec toute la déférence que je me dois d'observer pour jouir du plaisir de votre généreuse clientèle.
Il en dit trop, hein, ça sent pas bon.
T'as trop percé de pommade.
Je me permets de vous informer que je ne me suis pas mélangé les pinceaux, comme vous dites avec votre commande. C'est en effet de propos délibérés que je vous ai livré du nénuphar en place de bambou et de lotus.
Ben voilà.
Remontons quelque temps en arrière. Vous me deviez une coquette somme correspondant à tous les buis, astères, iris, jaunes et violets, glaïeuls et autres rosiers à vous livrer pour l'agrément de votre belle demeure de Giverny. Nous avions convenu que vous me paieriez au moyen d'une peinture format paysage, couleur chaude et estivale, décor campagnard avec personnage féminin dans le plus simple appareil. Et voilà que vous me fîtes parvenir, après maint rappel de ma part de nos conventions, une petite toile représentant le pont des Batignolles sous la neige, avec deux bonshommes en manteau de fourrure. Imaginez ma déconvenue. Mais je ne suis pas un chien, cher maître. J'ai toujours pensé que le principe œil pour œil, dent pour dent était un mode de relation bon pour les sauvages de la révolution industrielle et de la concurrence effrénée, certainement pas pour les cultivateurs des Lumières, fils de Jean-Jacques et de ses herbiers. Je vous prie donc de trouver ci-joint deux plants de Kimodo bambusa japonica et deux plants de Nenimbium roseum japonicum. Répondez à ce geste à votre guise ou n'y répondez pas, je reste indéfectiblement votre obligé. Mais ce n'est pas tout, cher maître. Laissez-moi vous suggérer une variante dans la titraison de votre œuvre. Il suffit que ces maudits nénuphars, vous les appeliez des nymphéas. Et vous verrez que ces bouses flottantes deviendront, par la magie du nom, de splendides sphères de lumière pareilles à des bulles de savon picturo-végétales, dont la spiritualité vous surprendra vous-même, pareille qu'elle sera à l'huile essentielle du grand art lorsqu'il parvient, presque, car il y a toujours un presque, à égaler la nature. Votre bien dévoué, Latour, jardinier.
C'est un jardinier qui a de la classe. Hein.
Ah oui, puis c'est génial parce que nymphéa, c'est nymphe.
Mais oui.
Donc c'est tout le rêve qu'il y a derrière ce...
Il vous a tout donné, en fait. Hein.
Bah oui.
On peut lui dire merci.
Que serais-je sans lui ?
Mais oui.
Un cœur au bois dormant.
C'est un joli hommage au dialogue avec son jardinier de Henri Coueco, je trouve.
Ah oui, c'est vrai.
Il y a cette délicatesse dans la langue et dans l'adresse à l'autre. Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Stressart avec Anne de Belchin et Bernard Laniel. À podcaster sur franceculture.fr pour la réécoute et vos collections. Et puis, rejoignez la page Facebook des papous pour les échanges, commentaires, suggestions. On se retrouve dimanche à 12h50 pour un numéro spécial Eugène Ionesco et la Huchette. Au revoir, passez un beau dimanche après-midi, bien au chaud, à l'écoute des programmes de France Culture.
Quoi, quoi ?